La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Je suis à nouveau aujourd'hui avec Sébastien Vauclair pour parler de la pollution lumineuse, des méthodes pour la mesurer et de son impact par rapport à l'observation du ciel, mais aussi, comme on va le voir aujourd'hui, pour la faune et la flore et aussi la santé des êtres humains. Donc nous avons parlé du bureau d'études scientifiques Dark Sky Lab qui a été créé pour développer des outils pour mieux comprendre la pollution lumineuse et ses effets. Nous allons revenir un peu sur ce sujet et parler de la modélisation et de la cartographie de ces effets de pollution lumineuse pour mieux comprendre l'impact sur la biodiversité en particulier. Donc Sébastien, est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites par rapport aux cartographies de pollution lumineuse et vos projets actuels ?
Oui, alors l'objectif, c'est de caractériser finalement ce qu'on appelle en écologie aujourd'hui une pression, c'est-à-dire que la lumière exerce une pression sur l'environnement. Et l'important pour pouvoir vraiment comprendre quel est l'impact négatif sur la biodiversité et surtout comment réduire ces nuisances et donc cette pression, il faut être capable de la caractériser. Donc une des manières de le caractériser, c'est de faire des cartes de pollution lumineuse qui pourront être ensuite interprétées, analysées, croisées avec des données d'enjeux de biodiversité, par exemple des données d'inventaire ou des trames vertes et bleues.
Des trames vertes et bleues, est-ce que tu peux déjà expliquer ? Parce que tu dis ces mots-là, mais on ne les connaît pas forcément.
C'est vrai que ce sont des mots qui, pour nous, sont devenus quotidiens. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, trames vertes et bleues ? Alors, ce serait un petit peu complexe, parce que c'est tout un engagement politique derrière des territoires. Mais en gros, il y a une manière de l'expliquer quand même très simplement. On parle de corridor écologique. Imaginez une forêt dans laquelle il y a une population de chevreuils, par exemple, qui vit comme il faut parce qu'ils ont la place qu'il faut pour se reproduire, pour se disperser, manger, etc. Et on décide, pour une raison ou pour une autre, de couper la forêt en deux avec une autoroute. Et bien, d'un seul coup, le territoire est fragmenté et les deux parties de territoire qui restent, peut-être, seraient trop petites pour que la population survive parce qu'il peut y avoir plus assez à manger, plus assez de partenaires, etc. Et donc, on a fragmenté le territoire. Et donc, on essaye de recréer un corridor écologique, dans ce cas-là vert, parce que voilà, c'est la couleur des prairies et des forêts, en construisant un pont, un passage à faune sur l'autoroute, en espérant que les chevreuils et les autres espèces vont l'emprunter pour relier ce territoire.
Effectivement, on en voit souvent sur les autoroutes.
Voilà, alors on peut parler aussi des passes à poissons, par exemple. Ça, c'est la trame bleue. Quand on a fragmenté un cours d'eau avec un barrage, on met une passe à poissons pour que les saumons puissent passer. Alors tout ça, c'est très bien en théorie, parce qu'on a pensé que d'une manière diurne, en fait. Et on ne s'est pas posé la question que peut-être la lumière allait gêner les espèces qui manquent de peau, allaient passer sur ce pont plutôt la nuit, mais en fait les phares des voitures ou les lumières de la route les gênent. Donc en fait ce corridor, cette trame verte qu'on a voulu restaurer n'est pas fonctionnel parce qu'il y a un autre niveau de pression qui s'ajoute et qui empêche aux animaux de passer. Voilà ce qu'on appelle une trame verte et bleue. Et en même temps, j'ai à peu près défini ce qu'on peut appeler une trame noire, c'est-à-dire de prendre aussi la pression liée à la lumière pour définir finalement ces corridors écologiques. Et c'est vrai pour à peu près la totalité des animaux sur Terre. On parle souvent des animaux nocturnes en oubliant que les animaux diurnes ont besoin de nuit aussi. Et donc ça va être vrai pour des insectes, pour des tout petits animaux, comme pour des grands mammifères, comme pour des oiseaux migrateurs qui traversent toute la France. Donc c'est important de l'analyser à toutes les échelles possibles. Donc juste pour revenir un tout petit peu sur les aspects développement, donc les trois axes, c'est donc comprendre la donnée. J'ai parlé dans l'émission précédente des données techniques des points lumineux. On peut aussi parler des données d'imagerie. On travaille beaucoup sur des images satellites, en fait, qui font des images du sol la nuit, voire même avec des images aériennes quand on travaille sur des centres urbains où on a besoin d'une meilleure résolution d'image. Et donc il y a tout ce travail de données aussi lié à la télédétection. Et ensuite, on a donc des outils pour faire des modélisations de la diffusion de la lumière qui crée en fait ces halos lumineux. Un des objectifs, c'est donc de faire des cartographies de ces halos lumineux en calculant la diffusion de la lumière dans l'atmosphère à partir des données que l'on connaît par ailleurs. Et donc tout ça est aussi très lié à la mesure. Le troisième axe de développement fondamental, c'est la mesure. Tant qu'on n'a pas de mesures physiques pour pouvoir tester les modèles que l'on a, il faut vraiment confronter les modèles théoriques à la réalité de mesure. Donc on fait beaucoup aussi de développement sur des outils de mesure. On a un outil qu'on a appelé Ninox, par exemple. On en a des centaines dans le monde entier, y compris on vient d'en installer un au VLT au Chili, pas plus tard qu'il y a 3 jours, pour vraiment faire des mesures un petit peu partout. Et ces mesures nous permettent de calibrer et de vérifier les résultats de nos modèles qui donnent donc ces cartes de pollution lumineuse. Globalement, on peut imaginer, mais c'est une vision très simpliste des choses, hein, de prendre des cartes de pollution lumineuse, de les croiser avec des cartes. Ça peut être du cadastre, ça peut être différentes données de zones protégées, d'inventaire d'espèces animales, etc., pour aller détecter où est-ce qu'il y a des zones à enjeu particulier, parce qu'on sait qu'on a une espèce, par exemple, en voie de disparition, qui est soumise à une très forte pression de la lumière. Ben, on sait qu'à cet endroit-là, on va devoir agir en priorité. Alors, il y a beaucoup d'autres choses dans une trame noire, puisque la trame noire, en fait, se veut une déclinaison territoriale, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit appropriée par la population, les usagers, les politiques, etc. J'aimerais juste aussi ajouter un autre point. Là, on parle de pollution lumineuse diffuse. Et on le sait bien, dans la biodiversité, il y a une infinité de possibilités d'espèces, et en particulier beaucoup d'espèces qui vont sortir peut-être plutôt au tout début de la nuit, au crépuscule, peut-être dans des conditions où il fait plutôt humide. Donc il faut regarder la pollution lumineuse dans toutes ces configurations, y compris avec la pollution lumineuse qu'on peut appeler directe. Donc il y avait la pollution lumineuse diffuse, qu'on va voir plutôt à grande distance, mais il y a aussi une gêne occasionnée finalement par la visibilité directe d'une source lumineuse, et ça tout le monde peut s'en rendre compte, parce que même un automobiliste par exemple en voiture, ben, il peut être ébloui par un lampadaire trop brillant. Et c'est cette attraction directe d'une source lumineuse qui fait qu'on décime, par exemple, les insectes les mois d'été par millions en France, parce qu'ils sont directement attirés par une source. C'est vrai aussi pour des oiseaux, etc. Donc il y a vraiment tous ces aspects de la pollution lumineuse. Il faut la regarder à toutes les heures de la nuit, il faut les regarder à proche distance, à longue distance, quand il fait beau, quand il fait pas beau. Et je disais à toutes les heures de la nuit aussi, parce qu'il y a un nouveau phénomène en France qui fait qu'on a de plus en plus d'extinction de l'éclairage public en cœur de nuit. C'est une solution de facilité. Le maire peut décider d'éteindre l'interrupteur et donc d'enlever finalement cette nuisance d'une minute à l'autre. Mais ça, il faut bien comprendre que c'est intéressant pour les finances des communes en particulier, mais c'est pas forcément là qu'on va avoir le meilleur levier d'action pour préserver la biodiversité, parce que la majorité des espèces animales sont actives à la tombée de la nuit plutôt qu'à 3 heures du matin. Donc c'est vraiment important, éteindre la nuit, c'est très bien, mais faut vraiment surtout réduire les nuisances au début et de la nuit, et à l'aube et au crépuscule, parce que c'est là où il y a les principaux enjeux pour la biodiversité.
Donc il y a énormément de travail à en faire encore, et il s'agit de limiter la destruction en fait, des espèces, hein. C'est quand même très très grave.
Les mots sont importants. Enfin, on peut parler d'insecticides, en l'occurrence, par exemple. On considère qu'on a à l'été 150 insectes morts par lampadaire, par nuit. En France, on a à peu près 11 millions de lampadaires. Je vous laisse faire le calcul. Quelques milliards dans le monde. C'est-à-dire qu'on tue des milliards et des milliards d'insectes tous les ans à cause des lampadaires qui, souvent, ne sont pas aussi utiles qu'on le pense. On parle beaucoup des abeilles. Les abeilles sont une super espèce qui participe beaucoup à la pollinisation, etc. Mais une énorme partie de la pollinisation, qui est fondamentale aussi pour la survie de l'être humain, finalement, a lieu la nuit par les insectes pollinisateurs et les papillons de nuit, par exemple. Et eux, c'est les premiers qui sont décimés par la pollution lumineuse. Donc c'est un enjeu absolument majeur. Simplement, on considère cet enjeu en termes de biodiversité depuis 15 ans maximum, je dirais, hein, depuis à peu près 2010, c'est extrêmement récent. Et donc il y a très peu de recherches sur le sujet, même si les publications sont en croissance exponentielle. On est encore à sous-estimer très largement cette question, et en particulier la question de l'impact sur l'être humain aussi et sur des questions de santé publique.
Mais il y a actuellement une prise de conscience des politiques, donc les choses avancent.
Alors oui, je précise aussi qu'on parle, on est en France, on parle en France, on parle même en Occitanie, où pas mal de choses ont commencé, donc il y a un moment où on a le droit d'être un petit peu chauvin et de faire un peu cocorico. Ce qu'on vit en France aujourd'hui est extrêmement précurseur. Les réserves de ciel étoilé, il y en a 5 en France aujourd'hui, sur 22 dans le monde. Ça prouve aussi l'engagement de la France à ce sujet. On peut comparer en fait la pollution lumineuse vue de l'espace sur toute l'Europe depuis plusieurs années. Et on a l'impression que, parce que les images sont faites au milieu de nuit quand les communes sont éteintes, on a l'impression que la pollution lumineuse diminue très fortement en France alors qu'elle augmente partout en Europe. Donc on est en France dans une situation un petit peu particulière, mais oui, il y a une très forte prise de conscience, en tout cas en France. Il y a d'autres pays où il y a encore beaucoup de boulot là-dessus. Mais il y a aussi énormément de territoires qui s'engagent pour la préservation de la biodiversité nocturne. Ce concept de trame noire, là aussi, ce concept de trame est un concept scientifique qui a émergé en France, en fait, hein, par des chercheurs français. On peut citer l'Office français de la biodiversité, le Muséum d'histoire naturelle et d'autres qui travaillent sur le sujet. Et puis, allez, 2016, on va dire, où le mouvement a quand même pris de l'ampleur. On a dû accompagner une bonne cinquantaine de territoires en France, ça veut dire des milliers de communes. Au moment où on se parle, bon, on a fait un indicateur national pour l'OFB, un indicateur national de pollution lumineuse. On a travaillé avec quasiment, je dirais, la moitié des parcs naturels régionaux français, c'est-à-dire entre 20 et 30. Il y en a d'autres qui sont engagés aussi. On est en train d'accompagner tous les parcs nationaux. Mais j'ai la fierté de dire aussi que si on a commencé au pied du Pic du Midi dans les Pyrénées, on accompagne aujourd'hui un groupement d'entreprises, d'énormes entreprises du BTP du CAC 40 pour rénover tout l'éclairage public de Paris pour les 10 prochaines années. Voilà, donc on touche aujourd'hui vraiment tout type de territoire, y compris la plupart des grandes métropoles françaises qui s'y mettent également.
Donc je crois qu'on a bien compris l'importance de diminuer cette pollution lumineuse pour la faune, la flore, la biodiversité. On peut dire un tout petit mot sur la santé humaine aussi ?
Bon, la santé humaine, à la limite, elle fait partie de la biodiversité. Deux mots, simplement, c'est un sujet qui est encore très très peu exploré. Il y a beaucoup plus de moyens qui sont mis dans l'étude de l'impact des lumières à LED de nos smartphones et d'autres tablettes qui nous empêchent de dormir et qui génèrent peut-être même des cancers. Voilà, il y a des études là-dessus. Donc on peut aller jusqu'à faire le parallèle des LED qui sont utilisées dans l'éclairage public, qui potentiellement rendent chez soi ce qu'on appelle la lumière intrusive et qui vont empêcher finalement notre corps de générer tout ce qui fait qu'il se régénère la nuit, en particulier l'hormone dite de la nuit, la mélatonine. Donc ça, c'est fondamental. C'est bien étudié avec les smartphones, mais l'éclairage public a a priori le même impact. Donc on a aussi un très fort impact en termes de santé publique. Mais je dois dire que c'est un sujet qui est assez magique parce que on n'a rien à perdre, en fait, dans cette histoire. Quand on va travailler sur des histoires de pesticides, bon, on sait bien qu'il y a des enjeux majeurs avec des lobbies, des grosses sociétés qui vendent des produits, qui ont toute une économie, en fait, derrière. La question de la pollution lumineuse est assez géniale puisqu'en fait, personne n'a rien à perdre là-dedans. C'est-à-dire que les gens qui vont regarder ça uniquement avec un œil de comptable qui veulent faire des économies, ben, s'ils font un vrai beau projet de rénovation de leur commune, alors il faut mesurer ça en fonction de la taille de la commune, mais dans les communes rurales, on arrive facilement à 75% d'économies sur la facture d'électricité annuelle de la commune. C'est absolument phénoménal. Sans tout couper tout le temps, hein, on garde aussi un usage de la lumière. Et évidemment, si on fait ça, on va d'abord faire des économies d'énergie, mais on va aussi être bénéfique pour la biodiversité. Si on a une sensibilité à la biodiversité, on va probablement être encore plus vertueux que juste si on veut faire des économies d'énergie. Et donc, on va faire des actions pour réduire les nuisances lumineuses. Mais du coup, on va générer beaucoup d'économies d'énergie aussi. Donc tout ça, à chaque fois, quelle que soit la porte d'entrée, on sait qu'on va gagner sur toutes les autres. Avec un tout petit bémol quand même auquel il faut faire très attention, c'est avec le prisme uniquement énergétique. Il y a un problème qu'on appelle globalement l'effet rebond. C'est qu'on a tellement de progrès avec les nouvelles technologies, passant des vieilles lampes à décharge au système OLED. Ça veut dire concrètement qu'on peut faire beaucoup d'économies d'énergie tout en générant plus de lumière quand même. Donc il faut faire attention à ça, il faut vraiment faire attention. Et moi, j'insiste pour ne pas parler de sobriété énergétique dans ce cas de figure-là, mais de sobriété lumineuse. Voilà, si on fait de la sobriété lumineuse, on sait qu'on va faire de la sobriété énergétique. Le contraire n'est pas forcément vrai.
Eh bien, merci Sébastien. Je crois qu'on a bien compris tous les enjeux de la pollution lumineuse. Il faut que les gens en aient tous conscience chez eux. Merci et bonne continuation.
Merci, bonsoir.